Émilie Chaudet, ce matin dans les enjeux internationaux, vous nous parlez de catastrophes naturelles.
Catastrophe naturelle, la prévention impossible, c'est une question et nous la posons ce matin en compagnie de Léa Kimber. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes doctorante merci à vous d'être là ce matin. Vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Genève et vous travaillez notamment sur ce programme de l'ONU, l'UNISDR, en charge de la stratégie internationale de prévention des catastrophes. Et nous allons revenir en détail sur son rôle sur le terrain et sur les terrains à risque et sinistrés et sur son fonctionnement. Mais d'abord un point sur ce qui a donné lieu au traitement de ce sujet aujourd'hui, c'est la situation catastrophique en Indonésie. Le pays a été frappé par un tsunami samedi dernier sur les rives du détroit de la Sonde qui sépare les îles de Java et de Sumatra. Le dernier bilan dépasse les 400 morts et les 1400 blessés. Et ce qui apparaît aujourd'hui, 5 jours après, c'est une aide humanitaire qui arrive bien trop lentement compte tenu de la gravité de la situation. L'Agence nationale de gestion des catastrophes parle de dégâts massifs qui ont fait obstacle à une arrivée rapide des secours et de l'aide. Et aujourd'hui, le manque d'eau potable et de médicaments sur les lieux sinistrés fait craindre aux responsables humanitaires présents sur place une crise sanitaire imminente. Un peu comme si rien n'avait été prévu pour faire face à ce type de drame qui survient pourtant très régulièrement dans la région. Un tsunami avait déjà tué plus de 1400 personnes en octobre dernier. Et on garde en mémoire ce séisme et le tsunami qui a suivi en 2004 dans cette même région, qui là avait causé plus de 200 000 morts dans toute la région de l'océan Indien. Alors Léa Kimber, ce mot de prévention, il est présent de manière importante dans cette politique onusienne de la réduction des risques. Pour quelle raison? Par exemple, ici en Indonésie, on va partir de cet exemple, mais on va élargir un petit peu notre rayon, notre champ de vision. Mais pourquoi ici en Indonésie, par exemple, on ne peut pas mettre à l'œuvre une aide plus efficace, en tout cas de prévention?
Si on revient aux fondamentaux, une catastrophe consiste vraiment en un événement soudain et désastreux qui perturbe vraiment gravement le fonctionnement d'une communauté ou d'une société. Ça pose toute la question de est-ce qu'on peut réellement être prêt pour une catastrophe. Enfin, effectivement, l'Indonésie est une des régions la plus touchée. Le 90% d'ailleurs des tremblements de terre se situent sur cet anneau de feu. Donc c'est une bonne question à se poser. C'est comment est-ce que on peut prévenir ou peut-être atténuer le problème, enfin le dégât suite à une catastrophe. Et donc, une des réponses qui va dans ce sens-là, c'est les enjeux fondamentaux autour de la coordination et de la collaboration des différents niveaux de réponse, que ce soit international, national et local. Et donc, il y a aussi le problème de redevabilité, sur qui prend en charge ces réponses. Et plus précisément, quand il y a une catastrophe, ça pose tout le problème de comment accéder à ces zones de dégâts, qui peut réellement répondre si les aéroports sont détruits, si les routes sont entravées par des débris, comment est-ce qu'on peut réellement accéder et apporter des soins et les fondamentaux pour sauver ces personnes et non seulement les sauver, mais aussi les soigner. Donc, la prévention ne peut pas être pensée sans penser à la réponse et tout doit être articulé en combinaison de l'avant et de l'après, en fait.
Mais justement, la question qui nous vient assez vite à l'esprit quand il est question de prévention, en tout cas sur le papier, c'est que jamais réellement les papiers de l'ONU nous expliquent ce que c'est que prévenir un risque. Qu'est-ce qu'on met concrètement en œuvre? Quels moyens humains, quels moyens matériels, logistiques, est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans une région qui est régulièrement touchée par des catastrophes naturelles?
Le problème, c'est que l'ONU est un organe qui permet de donner des lignes directrices. Malheureusement, c'est souvent les agences d'aide sur le terrain ou des ONG qui apportent la première aide et qui sont vraiment les personnes qui enlèvent les débris, qui sont à la recherche avec les chiens. Ça, c'est à ce moment-là que ça se joue vraiment. Alors que l'ONU est à Genève, à New York, quand les États membres, les 193 États membres sont en train de ratifier des textes dans le but de limiter la gestion de risque des catastrophes naturelles, l'ONU est juste là pour donner des lignes directrices et n'arrive pas à donner des principes très concrets et reste très très vague sur la manière d'implémenter des programmes de prévention et de réponse. Parce que chaque État membre doit pouvoir adopter et adapter ces lignes directrices dans un contexte national propre à lui-même et pouvoir gérer les différents niveaux de gouvernance à sa propre échelle. Et donc, tous ces termes qui sont utilisés restent très très vagues pour pouvoir donner l'interprétation possible aux États d'implémenter de leur manière, selon leurs critères, les différentes étapes nécessaires pour la prévention et la réponse aux catastrophes.
Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes dans tout ce que vous venez de dire, Léa Kimber. Déjà, cette notion de déconnexion que vous semblez sous-entendre de la part de l'ONU ou des instances internationales par rapport au terrain, vous, tout comme une chercheuse française, Sandrine Revet, qui travaille beaucoup sur la gestion des catastrophes naturelles et de la réduction des risques, vous évoquez toutes les deux dans vos travaux, en plus d'un manque d'engagement politique patent dans ce domaine, la non-participation de la société civile, qui est pourtant la première concernée par ces drames et qui pourtant reste quand même mise à l'écart de toute élaboration de dispositifs d'aide ou de prévention. Est-ce qu'on peut dire que tant que les institutions internationales ne collaboreront pas, en tout cas plus étroitement, ou ne collaboreront pas tout court avec la société civile, avec les entités locales, voire ultra-locales, il sera toujours aussi difficile, voire impossible, de bien penser cet aspect de la prévention, ou en tout cas de la gestion a posteriori des risques? Léa Kimber.
Oui, c'est une question effectivement fondamentale, mais le gros problème, c'est la définition même de qu'est-ce que la société civile. Qui est cette société civile? Parce que d'après mes travaux et d'après le terrain que j'ai étudié à Genève lors de la négociation sur la gestion de risque des catastrophes naturelles, ce que j'observe, c'est que cette société civile qui accède à l'ONU est totalement déconnectée de la société civile, du terrain. C'est ce sont d'autres personnes qui ont des ressources autres, de langue par exemple, de réseautage, qui diffèrent des personnes qui travaillent dans les ONG de terrain. Et donc, si elles revendiquent ces personnes qui sont considérées être la société civile de l'ONU, se retrouvent dans les arènes de négociations internationales, ont une vision beaucoup plus globale et peut-être manquent d'implémentation, enfin une vision d'implémentation sur le terrain.
La mise en œuvre, oui.
Et donc, la mise en œuvre. Il y a donc toujours ce décalage qui se fait au niveau global sur la ligne directrice de où on devrait se diriger et ce qui se passe réellement sur le terrain avec toutes les complexités que ça consiste. L'autre aspect qui est intéressant à soulever, c'est qu'en fait, il faudrait penser à un système néolibéral où l'ONU donne donc ses grandes lignes directrices que chaque État doit ensuite pouvoir mettre en œuvre. Et c'est comme si l'ONU ensuite se dédouanait en fait de cette responsabilité-là que de la mise en œuvre des programmes qu'elle met en place. Donc, si on pense ça plus généralement et peut-être plus de manière plus précisément, jusque dans les communautés locales, on pourrait imaginer qu'il y a une sorte d'effet, une répercussion de ce dédouanement de l'ONU qui se dédouane sur les gouvernements, qui se dédouanent eux sur les autorités locales, qui se dédouanent elles sur les personnes, les individus. Et finalement, c'est les individus qui sont livrés à eux-mêmes, qui doivent se coordonner sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est bien dans ces moments-là de catastrophe qu'on se rend compte que c'est les personnes qui connaissent bien les environs, les zones, qui ont une bonne connaissance de la topographie, qui arrivent ensuite à trouver, à dénouer le gros problème. Et c'est donc peut-être aussi une autre vision de la réponse qu'il faudrait apporter, c'est de pouvoir effectivement, comme vous le souligniez auparavant, de travailler plus étroitement avec ces personnes pour pouvoir, entre les ONG et les personnes qui sont affectées par cette catastrophe, pouvoir mieux résoudre ou apporter des solutions concrètes.
Mais alors, est-ce qu'il y a un problème de volonté politique? Excusez-moi, je vous interromps, Léa Kimber. Est-ce qu'il y a un problème de volonté de la part de ces institutions-là? Et pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'a y gagné de ce manque de volonté, pas même l'ONU, en fait.
Alors, si c'était qu'une question de volonté politique, ce serait peut-être une réponse assez rapide et assez simple. Mais le problème, c'est que ça reste beaucoup plus complexe que ça, et ça repose énormément sur la question des ressources. Si on reprend l'exemple de ce qui s'est passé en Indonésie le week-end passé, on se rend bien compte qu'en fait, il y a eu un manque de système d'alerte approprié pour alerter d'un tsunami qui est causé par pas un tremblement de terre cette fois-ci, mais d'un éboulement suite à une éruption volcanique. Et donc là, on se rend compte qu'il y a de nouveau un décalage entre le besoin et les ressources sur place. et ses ressources sont évidemment financières. Et c'est ça qui pose tout le problème de la réponse aussi et de la préparation, parce que si les États en voie de développement sont confrontés à un manque de ressources, tout simplement, on ne peut pas implémenter, on ne peut pas mettre en œuvre des programmes qui sont ratifiés dans les arènes de décisions internationales.
Et pour rester c'est encore ça, un peu sur ce terrain de l'Indonésie, Léa Kimber, par exemple, là, qu'est-ce qu'il pourrait être mise en place assez immédiatement pour empêcher qu'un autre tsunami, parce qu'il y en a déjà eu un précédent en octobre, ouais. Là nous sommes en décembre, donc ce sont des catastrophes vraiment récurrentes sur ce terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour empêcher que ça recommence et pour venir en aide plus efficacement que d'habitude aux populations touchées? Quels moyens? Comment? Quelle coordination?
Ce qui est intéressant, c'est si on reprend de nouveau le niveau global à l'ONU, si on revient aux fondamentaux, la gestion risque de catastrophes naturelles, contrairement à d'autres sommets qui se déroulent au sein de l'ONU, on est vraiment dans une situation de consensus. Tout le monde, tous les États s'accordent à dire il faut être plus résilient, il faut pouvoir faire face à ces catastrophes. Et il faut effectivement une collaboration. Et maintenant, tout le problème se situe sur comment est-ce qu'on collabore. Et on revient de nouveau à la même question de quelles sont les ressources adéquates et qui dispose de quelles ressources et qui devrait pouvoir en bénéficier. Et qu'il faut avoir une vision probablement comme l'ONU, si on décortique un peu les programmes de l'ONU qui ont commencé dans les années 2000 jusqu'à présent, il y a vraiment, on voit des changements de paradigme sur la manière d'appréhender ces catastrophes.
Et c'est-à-dire que,
alors, on était plutôt dans un contexte dans les années 2000 où on essayait d'avoir une vision globale de ce que c'était la gestion de catastrophes naturelles. Et tout d'un coup, se passe le grand tsunami de 2004.
En Indonésie aussi.
Exactement. Qui ravage toute une population entière, qui va au-delà des frontières. Bon, malheureusement aussi, c'est l'homme blanc, entre guillemets, qui est attaqué et qui est affecté par ces catastrophes, qui remonte aussi beaucoup plus dans les médias occidentaux. Et il y a une volonté réellement de collaborer, de se dire, il y a un problème ici, il faut qu'on puisse ensemble dénouer ces problèmes et prévenir pour pas que ça se répète. Donc ça, c'est un peu le point de départ où l'ONU est vraiment prise de court et se légitime ensuite dans ses programmes pour pouvoir faire face ou en tout cas proposer des programmes mondiaux qui devraient être mis en œuvre. Ensuite, on a une sorte de... Si on continue en 2010, il y a le grand tremblement de terre de Haïti qui a été énormément destructeur. Et ça, de nouveau, ça crée un autre changement de paradigme parce que jusqu'à présent, on pensait prendre des statistiques, on était vraiment sur une vision probabiliste des catastrophes. Donc, on reprenait des données d'il y a 200 ans jusqu'à présent pour essayer de voir quelles étaient les probabilités qu'une catastrophe arrive. Malheureusement, Haïti a dépassé toute probabilité et a heurté de manière très destructrice, en fait, l'île. Et les personnes. Et donc, du coup, il y a un changement de paradigme qui se met en place au sein de l'ONU et les personnes qui y travaillent se disent, mais peut-être qu'il faut qu'on puisse penser à la catastrophe, the worst case scenario, comme on dit en anglais, donc la catastrophe suprême. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, il faudrait peut-être penser à qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire de pire de pire. Et si on fait le lien avec l'Indonésie aujourd'hui, ils étaient peut-être prêts pour accueillir ou pour avoir un système d'alerte pour pouvoir prévenir ou en tout cas alerter la population d'un tsunami suite à un tremblement de terre. Et là, c'était une situation hors norme puisque c'était un volcan et la cause d'un émoulement qui crée ce tsunami. Donc, on est dans ce changement de paradigme-là qu'il faudrait peut-être prendre au sérieux et peut-être penser différemment les catastrophes.
Alors, vous insistez beaucoup, Léa Kimber, dans vos travaux sur l'importance des mots employés au sein des instances de l'ONU. Vous faites un sort notamment au terme de résilience, dont l'ONU a fait un terme central de ses programmes de gestion de la pauvreté et des risques. La résilience qui désigne une certaine habilité à se relever, à se remettre de la catastrophe, mais qui est employée par l'ONU dans son programme de prévention et de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et qui permet d'entretenir un flou, c'est ce que vous dites en tout cas. Alors, rester dans ce flou, est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine manière, pour l'ONU, admettre que cette organisation n'a pas les moyens ou n'a pas la bonne focale pour gérer les catastrophes naturelles aujourd'hui? Quand vous parlez de changer de paradigme, est-ce que ce serait, par exemple, déléguer, confier cette mission de gestion des risques à un autre organisme international que celui de l'ONU?
Il faudrait. Alors, on a souvent une idée, un idéal de cette ONU. On a une idée rêvée de ce que l'ONU est capable de faire. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que c'est 193 membres qui ont finalement les décisions, qui prennent les décisions pour pouvoir ratifier les textes qui devraient être ensuite mis en œuvre de manière globale.
Mais ce temps de la politique n'est pas du tout celui du temps de la catastrophe.
Bah, c'est bien ça le problème aussi, c'est tout ce décalage. C'est qu'il y a une volonté politique dans les sommets de pouvoir donner des lignes directrices, avoir une trame narrative qui pousse tout le monde vers le positif. Donc ça, c'est aussi de nouveau, si on revient sur les mots, entre la question de la résilience, c'est en fait le pendant positif de la vulnérabilité qui a été très employé dans les années 80 et qui maintenant a été changé dans les années fin des années 90, début des années 2000 en le concept pendant positif, je dirais, de la résilience.
Une toute dernière question, Léa Kimber, ce serait quoi le nouveau paradigme aujourd'hui après ce dernier séisme en Indonésie sur lequel il faudrait repenser la prévention, la gestion des risques?
Ben, je pense que de nouveau, et ça c'est pas moi qui le dis, ça fait quelques années que dans les recherches scientifiques le disent et le proposent, c'est de nouveau se replonger sur cette catastrophe dite la pire, le pire scénario, et s'imaginer vraiment qu'est-ce qui pourrait à tous les niveaux être le pire scénario finalement, et comment se préparer à ça. Et si on reprend l'exemple de Katrina par exemple en 2005 qui a ravagé la Nouvelle-Orléans, on n'était pas prêts, les États-Unis n'étaient pas prêts à entendre que les digues n'étaient plus résistantes, solides exactement. Et de nouveau, ça pose toute la question des ressources qui n'ont pas été insufflées pour remettre en place ces digues et les faire de manière plus solide. Mais il y avait aussi toute la question de Katrina qui a totalement ravagé la Nouvelle-Orléans et qui n'a pas été prise au sérieux, et on n'a pas pensé à la catastrophe, le pire scénario pour pouvoir répondre au plus juste à Katrina, à cet ouragan qui a été jusqu'à présent le pire dans l'histoire des États-Unis.
Eh bien, merci beaucoup, Léa Kimber. Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Genève, spécialiste du programme de l'ONU sur la prévention des catastrophes et la réduction des risques. On peut réécouter et podcaster ces enjeux internationaux sur franceculture.fr à la page de l'émission. À demain.